L'heure du carillon, aujourd'hui les migrants. L'émission sera diffusée sur Radio Présence à Figeac. Donc, les migrants, c'est un problème central, puisqu'il va nous concerner, je pense, jusqu'en 2050, quand la population mondiale va se stabiliser. C'est un problème, je dirais, disons un concept un peu fourre-tout, parce que certains parlent tantôt de réfugiés, de demandeurs d'asile, d'expatriés, d'exilés, de clandestins, de déboutés. Mais j'ai l'impression que si on demandait aux intéressés, pour eux, toutes ces distinctions les dépassent. Parce que est-il plus confortable de mourir de faim ou de bombardement ? On peut risquer la mort en Méditerranée parce qu'on a faim, mais aussi, évidemment, parce qu'on est chassé par la guerre. C'est un problème, donc, qui concerne toute l'Europe, qui est un continent un peu vieilli, qui manque de main-d'œuvre, qui est en déficit démographique. Et par contre, l'Afrique et l'Asie, eux, ont des jeunes qui cherchent des emplois. Donc, c'est cette différence qui explique effectivement les migrations actuelles. Je dirais enfin que c'est un problème difficile parce que ça touche à beaucoup de choses. Ça touche à la sécurité. On le voit puisque certains mettent du béton et du barbelé aux frontières. Ça touche à l'économie. Est-ce un fardeau? Est-ce une chance? On pourra en discuter. C'est un problème moral. Faut-il rejeter les bateaux? Mais alors, est-ce qu'on les envoie pas à la mort? Accueillir, bien sûr, est-ce suffisant? Mais il faut aussi intégrer. Donc, on est dans une situation assez inédite parce qu'il y a un nombre quand même qui est considérable. Et donc, ça pose des problèmes très compliqués et très difficiles. Alors, pour en parler, j'ai autour de moi des gens qui sont en plein dans ce problème. Alors, je donne la parole tout d'abord à Thérèse.
Alors, je m'appelle Thérèse Genies. Je suis responsable de la pastorale sur Villefranche de Rouergue et à l'équipe diocésaine à Rodez. Et je suis à Villefranche depuis 4 ans. Mais j'étais avant à Bordeaux où je me suis occupée pas mal de migrants, sans être en pastorale. Voilà, je suis religieuse, je ne l'ai pas dit.
Très bien. Colette.
Colette, je suis à Villefranche depuis longtemps. Je suis venue tout de suite quand Thérèse a fait appel à la pastorale des migrants. Parce que j'avais eu personnellement beaucoup de contacts avec des familles de migrants ici ou ailleurs et je sentais le besoin de ne pas être seule face à leurs problèmes.
Maïté.
Alors Maïté, donc moi aussi j'étais embarquée dans cette belle aventure, je dirais, de la pastorale par Thérèse et donc ensuite dans le réseau. Et j'ai été sensibilisée, enfin donc par cette aventure, on connaît plusieurs migrants et qui nous apportent beaucoup. Et aussi, j'avais été très touchée dans un voyage en Palestine avec le CCFED. Les moments les plus douloureux avaient été la rencontre dans les camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie. Et donc, la majorité des Palestiniens sont des réfugiés de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ça reste un souvenir très, très, très fort.
Je précise que le CCFED, c'est le Comité contre la faim et pour le développement. C'est une des grandes ONG actuelles en France. Michel?
Michel Montbressou, je suis un habitué de l'émission L'heure du carillon sur FM Radio 90.2.
Oui, alors je voudrais dire que habituellement, C'est la bande des quatre, si j'ose dire, parce qu'il y a, en plus de Michel Montbressous, comme responsable de l'émission, le père Grandjou, qui est curé de Villeneuve, mais qui n'est pas là aujourd'hui, et Émilie Martens, qui est en vacances actuellement et qui est infirmière qui s'occupe des Alzheimer à Rueil. Voilà pour cette présentation. En allant plus loin, comme professeur d'histoire, il me semble que c'est intéressant de situer ce problème des migrants aujourd'hui dans l'historique des migrations en France. Nous allons le faire tout de suite, mais avant, on va écouter la petite Marseillaise.
Je te salue, petite Marseillaise, y a pas 6 mois t'es arrivée. Ta maman était congolaise, ton papa vient du Ténéré. Ton papa vient du Ténéré. Ils t'ont dit on part en vacances, on va voir un nouveau pays. Peut-être qu'on y passera notre vie. Il porte un beau nom, il s'appelle France. Égalité, fraternité, au fond du cœur, j'ai trois font la liberté. Voilà 3 mots, petite Marseillaise, 3 jolies fleurs pour un bouquet. Ces 3 fleurs, j'aimerais qu'elles te plaisent, que tu les laisses jamais faner. Que tu les laisses jamais faner. Elles ont des noms qui donnent des ailes. Tiens-les bien au chaud sur ton cœur. Tiens-les à l'abri des voleurs. Il y a des gens qui sont morts pour elles. Égalité, fraternité, j'ai 3 couleurs qui font la liberté. Quand tes parents ont fui la guerre, la peur, la misère ou la faim, en partant ont laissé derrière la famille, les amis, les voisins. La famille, les amis, les voisins. Un autre pays, c'est une chance. Si tu veux, tu pourras demain entrer et prendre par la main tous ceux qui sont déjà dans la danse. Égalité, fraternité, au fond du cœur, j'ai 3 couleurs qui font la liberté.
Oui, peut-être qu'on peut dire que cette chanson très optimiste et généreuse avait été créée pour une rencontre nationale de l'Action catholique ouvrière, ACO.
Alors, l'émission est consacrée aujourd'hui aux migrants. Pour resituer ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais rappeler un petit peu l'historique des migrations en France. La France n'est pas une race. Encore moins un pays de race blanche, il y a de tout, il y a même des Antillais qui sont bien noirs. Donc c'est une nation faite d'une mosaïque de peuples et de cultures. depuis toujours, les sangs se sont mêlés. Donc on ne peut pas distinguer ceux qui sont descendants d'aïeux ancrés dans le terroir et ceux qui sont porteurs de germes étrangers. Donc c'est une terre d'immigration depuis toujours. Je ne vais pas rappeler les Grecs à Marseille, les Scandinaves qui débarquent en Normandie, les Sarrasins dans le sud-ouest, enfin je pourrais continuer. Je voudrais parler surtout une terre d'immigration surtout depuis 1850. Il y a eu en gros quatre vagues d'immigration. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la révolution industrielle avait besoin de main-d'œuvre, donc première vague, qui a touché surtout l'Europe du Nord. Après 14-18, ça a été quand même la grande saignée, et il y a eu surtout des Italiens et des Polonais. Après 45, c'est la vague la plus massive, près de 4 millions, où il y a eu surtout des Espagnols, des Portugais et des Maghrébins. Et c'est ce qui a permis les 30 Glorieuses, c'est-à-dire une période d'expansion économique très importante. Et puis après 70, on a vu arriver surtout des Africains noirs et des Asiatiques. Et entre-temps, donc, il y a eu, parce que l'histoire n'est jamais un long fleuve tranquille, il y a eu entre 39-45, les Alsaciens lorrains qui ont été obligés parfois de suivre l'armée allemande, les Espagnols qui sont venus en France à cause du franquisme, les Juifs à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'avancée des nazis, puis il y a eu les Boat People à cause des persécutions communistes, les Pieds Noirs qui sont arrivés d'Algérie en 62, les Arméniens, enfin donc on pourrait multiplier ces problèmes qui ont bousculé les populations. Aujourd'hui, on peut dire que le bilan a été positif. Si on prend les chanteurs, les sportifs, les scientifiques, eh bien il y a beaucoup d'étrangers qui se sont fait connaître. Bon... Pour les chanteurs, pensez à Annie Cordy, Ebrel qui venait de Belgique, Aznavour qui venait d'Arménie, Dalida, Dibango pour l'Afrique noire. Les sports, je rappelle quand même que la grande finale de foot en 98, on avait plutôt une équipe multicolore. Et plus près de nous, si on prend des Cazeville, je crois que c'est une ville qui s'est construite avec des migrants. Donc, ça, c'est quand même très important. Donc, l'intégration, grosso modo, s'est faite sans trop de problèmes. Parce que il y a eu les principes de la Révolution, égalité, fraternité. Donc, pas de discrimination en France. Alors, bien entendu, je dis sans trop de problèmes, il y en a eu quand même, hein, parce que on a traité les Italiens de macaroni. Il y a eu même, je crois que c'est à Aigues-Mortes, un véritable pogrom. Dans certains bassins miniers, les ouvriers disaient « on n'a pas de boulot, les étrangers dehors ». Maïté.
Non, ce que je voulais dire aussi, les camps, les Espagnols par exemple, oui, qui ont été dans de véritables camps. L'intégration, par contre, dans les pays miniers, moi étant de Cazeville en particulier, oui, ça s'est fait quand même relativement facilement, je trouvais. Et il y avait donc le boxeur qui était la coqueluche de toute de Cazeville, qui était un Algérien. Il y avait. Voilà.
Oui, donc, bon, l'intégration s'est faite. La France est un pays un peu spécial en Europe parce que il y a eu ce mélange de peuples. On trouve pas ça, par exemple, en Pologne, qui est assez homogène d'un point de vue ethnique. Par contre, aux États-Unis, je crois qu'il y a 68 ethnies. Mais là aussi, il y a eu des problèmes, surtout avec les Noirs, bien sûr. Mais il y a eu des problèmes divers. Mais enfin, ça fait un peuple quand même, hein. Tu voulais dire quelque chose là-dessus?
Non. Bon. C'est la première puissance économique.
Absolument.
Et puis nous, le problème maintenant, c'est que justement l'économie ne va pas bien, qu'à l'époque, ça s'est pas très bien passé l'accueil des migrants, mais en fait, ça s'est quand même malgré tout convenablement passé, dans la mesure où l'économie avait besoin de bras. Mais c'est vrai que les mentalités n'étaient pas encore à l'accueil pour ce qu'il aurait dû être.
Ça, c'est vrai que moi, je vois à Bordeaux, c'était très fort. Il y avait des familles dans lesquelles je connaissais bien qui ne supportaient pas l'étranger. Quand ils revenaient du boulot, mais alors c'était quelque chose. Je n'avais jamais vu ça. Il y avait deux familles comme ça en particulier.
Ça s'appelle le racisme.
Oui, mais je sais bien.
Je m'en doute, mais que vous le savez. Mais je pense qu'il faut lutter contre ça parce que c'est totalement absurde. Mais enfin, on va en parler.
Oui, il m'a été parlé des réfugiés espagnols qu'on avait mis dans des camps et qu'on a traités de façon honteuse, il faut bien le dire. Je rappelle que près de chez nous, à Septfonds, il y avait un camp de réfugiés espagnols. Et
il y a encore
des traces. Il y a le cimetière.
Pas à Septfonds.
Donc, c'est sûr que, grosso modo, l'intégration s'est faite en France, mais ça n'a pas été sans problème. Il ne faut pas non plus être trop optimiste. Donc, on va écouter une deuxième chanson, Léo Ferré, que j'aime bien. C'est une qui reprend un poème d'Aragon, L'étrangère.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de faon. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias, sa robe tomba tout de suite, quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois tout recommence, toute musique me séduit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme, un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
L'émission chrétienne, l'heure du carillon. Donc, l'ancien professeur d'histoire à la retraite a parlé un petit peu de l'historique des migrations. Et Thérèse voulait ajouter quelque chose là-dessus.
Je voulais simplement dire que on est quand même Aujourd'hui, en France, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'intégration de certains migrants.
Donc, le problème de l'intégration est un des problèmes importants aujourd'hui en France. En France et dans d'autres pays européens, c'est sûr. Nous en reparlerons, effectivement. Il s'agit pas que d'accueillir des migrants, il s'agit de les intégrer. Ça passe par l'école, ça passe par l'apprentissage de la langue, ça passe par des problèmes de logement, d'emploi, mais nous y reviendrons là-dessus. Donc, dans cette partie, je voudrais parler longuement de cette pastorale des migrants, puisque nous avons là trois invités qui en font partie, de cette pastorale des migrants. Alors, Thérèse, l'historique de cette pastorale des migrants.
Oui, alors pour l'historique, je dirais que c'est en 1914, à la veille du premier conflit mondial, que le pape Benoît XV a instauré une journée mondiale du migrant et du réfugié. Et c'est en 2004 que le pape Jean-Paul II a programmé la journée qui serait mondiale, la même pour toutes, pour tous. Donc, cette journée est la deuxième semaine après le 6 janvier. Voilà. Donc, ça, c'est partout pareil pour tout le monde. Pour vivre cette solidarité avec les migrants et les réfugiés, l'Église met en place la pastorale des migrants sur un plan national, provincial, diocésain et local. Et sur notre diocèse, il se trouve que la pastorale était vraiment un peu en sommeil et que l'évêque François nous a demandé de créer une équipe pastorale dans le diocèse. Et donc, je fais partie de l'équipe et la responsable, c'est Danielle Régis. Voilà, à Villefranche, ça c'était en 2012-2013. Et à Villefranche, à cette même date, nous avons créé donc une équipe locale, dont font partie mes deux collègues. Et nous avons œuvré pendant une année comme ça. Donc ce que je veux dire là, c'est que la pastorale est un service, vraiment un service d'église. Ce n'est pas une ONG, une autre ONG de plus. C'est le témoignage d'une église qui veut vivre la fraternité avec les migrants et qui essaie aussi de vivre une vraie solidarité avec cette population. C'est vrai que pour l'église catholique, personne ne devrait être étranger, ni exclu, ni trop loin. Il s'agit de marcher ensemble vers un monde meilleur. Mais en fait, dans la réalité, on se rend compte que le chemin est difficile pour répondre aux attentes de tous les migrants, d'abord de ceux qu'on rencontre. Et très vite, nous avons senti nos limites au niveau formation, pour tout ce qui concerne les papiers, les démarches à faire, l'aide concrète à apporter. C'est ainsi que nous faisons appel à un responsable du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Montauban, qui se nomme Monsieur Hortalo, à la fois pour apporter un éclairage, étant donné sa compétence, pour dissiper les idées fausses, parce qu'on en entend beaucoup, et si possible, mutualiser nos compétences en faisant appel aux associations de la ville. Et c'est comme ça que nous avons créé un réseau. Et pour le réseau, je laisse la place à Colette.
Alors pour le réseau, bien, en pastoral, on avait envie de pouvoir vivre quelque chose... aider tout en leur laissant largement leur place, les migrants, et on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup, plus qu'on ne croyait à Villefranche. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait d'autres associations, groupes, personnes à Villefranche qui avaient le même souci. D'autre part, on s'est senti, comme l'a dit Thérèse, très petit dans nos manques. Et on a éprouvé le besoin de se rassembler, de pouvoir partager avec d'autres, et d'autres, pas forcément du tout de milieu chrétien, tous ceux qui avaient cette même préoccupation de l'accueil de l'étranger. C'est comme ça qu'on a lancé une première réunion, si je ne me trompe, en janvier 2014, et à notre grand étonnement, les réponses ont été très favorables et beaucoup d'associations, de personnes sont venues, on a partagé, on s'est aperçu que nous étions différents dans un certain nombre de choix, mais que sur ce problème, nous marchions tous vraiment dans la même direction, avec la même recherche, avec le même besoin de partager pour être plus fort. On s'est vite aperçu que chaque fois qu'il y a eu un problème grave avec une famille dans Villefranche, où on faisait trois fois la même chose parce que chaque association ou groupe faisait quelque chose, ou alors on passait à côté d'une chose importante qui n'était pas faite. D'où la réussite de cette première réunion, je crois, de tous les horizons, on est reparti, décidé à continuer. Il y a certaines mauvaises langues qui nous ont dit « ça tiendra pas parce qu'il y a des choix politiques et autres très différents entre les gens ». Finalement, ben, ça tient depuis ce temps-là, ça marche très bien. On est sur le partage et sur la même ligne, pardon Thérèse.
Tu peux peut-être nommer les associations qui font partie.
Alors, les associations qui maintenant sont vraiment... Il y a d'autres associations qui, pour un fait ou un autre, nous donnent un coup de main. Mais ceux qui constituent le réseau, il y a le Secours catholique, le Secours populaire, je parle des Villefranchois, la Ligue des droits de l'homme, Famille laïque, l'ASCO, qui est l'accompagnement scolaire, et nous, la pastorale des migrants. À ceux-ci se sont ajoutés des électrons libres, parce que on avait besoin, très vite on s'est aperçu qu'on avait besoin, un, d'argent, je vous dirai pourquoi, et deux, de se faire connaître, donc on a lancé au cinéma de Villefranche un film. La pub était bonne parce qu'il y a eu beaucoup de monde et du coup un certain nombre de personnes indépendantes et pas décidées à rentrer dans des associations sont venues nous aider et participent très activement au réseau.
Oui, moi ce qui m'intéresse et me frappe, parce que ça c'est inédit et nouveau, de voir des associations laïques œuvrer ensemble avec des chrétiens. C'est quand même pas mal. Vous avez fait fort là. Hein. Je sais pas si vous avez rendu compte, mais moi je trouve ça extra.
Moi je dirais qu'un constat qui est général, c'est que quand ce sont des gens de bonne volonté, à partir du moment où on connaît des personnes et où on travaille avec des personnes, des migrants en l'occurrence, les idéologies passent au second plan. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir
des convictions,
mais ces convictions, elles vont dans le même sens. Après, on peut, sur des questions de détails, il peut y avoir des différences, mais pour le moment, les différences, c'est plus un enrichissement qu'un conflit. Hein. Ça a été très, très rarement.
Non, ce qu'on peut dire aussi.
Effectivement, c'est nouveau et c'est très, très.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'autrefois, les oppositions étaient marquées. Si je puis m'exprimer ainsi, il y avait les culs rouges et les culs blancs. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus raisonnable, c'est plus adulte et c'est plus respectable. Et donc, effectivement, il est possible de travailler ensemble. Et c'est quand même énorme.
C'est vrai que quelqu'un nous a dit, ça n'avait jamais tenu. Vous avez lancé une première réunion, ça n'avait pas tenu.
Mais je crois qu'on peut y voir peut-être, pour régénérer notre société, c'est peut-être un premier exemple où on voit que ce défi qui nous est lancé par les migrants, ça apporte du lien social, du tissu social, qui était un peu délité. C'est peut-être le premier enseignement à en tirer. Et c'est vrai aussi que personnellement, par rapport à ma position parfois un peu hérissée par rapport à l'Église, c'est la première fois où je me sens vraiment de plein pied avec cette Église-là, alors qu'il y avait eu des précédents par rapport aux questions familiales ou autres, mariage pour tous, où vraiment on avait... Enfin, personnellement, j'avais un peu honte des fois de me dire oui, je suis quand même, par l'Action catholique ouvrière, un peu dans cette Église, alors que là, vraiment, et on a entendu de gens qui n'étaient pas des catholiques, loin de là, et chapeau les catholiques. Bon, voilà, ça fait du bien aussi.
Alors oui, j'ajouterais, moi j'y croyais, dès le début j'y croyais, parce que je suis catholique, mais je ne peux travailler, je n'arrive à travailler sur n'importe quelle action qu'en partageant avec des gens, j'étais pour dire différents. Non, je dirais pas catholique, mais justement, pas si différent que ça, où on se rend compte et où on peut partager et où on s'enrichit. Mmh. Et au réseau, vraiment, j'ai trouvé ce partage et cet enrichissement. Alors, l'enrichissement avec les gens du réseau, et j'oublie un peu que on a aussi autour de nous un certain nombre de familles, il y en a pas mal ici, de familles qui cherchent à s'intégrer, et eux aussi nous enrichissent beaucoup. Parce que on arrive en croyant les aider, c'est le mot. On s'est même pris à dire nos familles sont pas les nôtres, c'est eux-mêmes. Et on s'aperçoit que sur beaucoup de plans, ils nous apportent beaucoup et ils nous obligent à une réflexion plus profonde, plus large.
Je voulais ajouter que quand j'étais à Bordeaux, j'avais pas de problème pour travailler comme ça avec les laïcs. On travaillait tout le temps avec des laïcs et c'était normal, j'allais dire. Et ici, c'est vrai qu'on m'a mise un peu en garde. Quand on a créé ce réseau, on m'a mise un peu en garde. je me suis dit, mais où je suis tombée? De temps en temps, on est un peu frileux, l'Église. Bon, je crois qu'il faut le reconnaître, mais bon, c'est comme ça. Je pense que ça avance, quand même.
Il faut savoir que l'Aveyron est une petite Vendée, qu'il y a eu des conflits entre l'école libre et l'école laïque. Mes amis de l'enseignement public diraient l'école dite libre. Mais en fait, je m'amuse là. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous vous réunissez souvent, est-ce que vous pouvez donner, pour ceux qui seraient intéressés, un numéro de téléphone, un mail, quelque chose, parce que ça vaut le coup là, non?
Alors, oui, bien sûr que j'avais l'intention de le faire. je précise aussi ce que je n'ai pas dit, qu'on a beau se réunir à un certain nombre d'associations, on ne connaît pas tout, on marche souvent sur des œufs, on a peur de faire des bêtises et d'en faire à d'autres en situation moins enviable. Donc on n'hésite pas à collaborer, à se faire aider par des structures plus
professionnelles,
plus fortes, plus connaisseurs que nous sur toutes les questions, des avocats. Pour Villefranche, Village 12, le centre social et d'autres, j'en oublie. On fait CIMAD. Pas, on n'invente pas sous notre chapeau.
La CIMAD,
oui.
Gisti.
Oui, Gisti aussi.
Gisti, c'est quoi?
Aidez-moi, c'est le. La STIS sont les associations, c'est du même genre. De solidarité avec les travailleurs immigrés. Et Gisti, c'est presque les mêmes. C'est aussi avec les travailleurs immigrés. C'est tout le groupe d'aide aux travail de recherche avec les travailleurs immigrés.
Ils connaissent un peu toutes les voies et toutes les astuces, quoi.
Donc ça n'existe pas sur Villefranche, bien évidemment, ni en Aveyron, hein, mais il y a des permanences téléphoniques possibles à Paris.
On répond toujours. Et aussi le réseau des enseignants sans frontières.
RESF.
Oui.
D'accord.
Donc, on n'hésite pas à élargir pour se faire aider et pour ne pas faire trop de bêtises.
Bon, en même temps, il y a eu aussi dès le début des actions de formation. Il y a un avocat, Julien Brel, là, qui travaille dans un cabinet d'avocats qui sur Toulouse, qui travaille beaucoup sur les dossiers donc de migrants. Il y a eu aussi pendant l'été, il y a eu une formation avec des avocats aussi.
Il y a un besoin de notre temps, mais aussi il y a besoin d'argent. Parce que l'aide que demande, enfin l'aide auquel...
D'hébergement.
Là où on doit faire face, il y a les logements. Parce que il faut savoir qu'une famille en attente de papier, et c'est très long les attentes de papier, ça dure des fois 5 ans, 6 ans, des enfants sont nés ici. Donc il y a les problèmes de logement. Il y a les problèmes d'électricité, de chauffage, de timbres fiscaux. Parce que quand il y a des papiers de régularisation pour un certain temps, 6 mois ou 1 an, on va les chercher à la préfecture, mais il faut verser des sommes qui sont pas anodines et que les gens n'ont pas. Des rendez-vous qui sont à certaines préfectures, le premier est dans la région parisienne, et les familles qui doivent monter, le père et la mère, dans la région parisienne, il faut le transport, il faut le logement. Bon, donc, il y a beaucoup de gens qui ouvrent leurs portes, mais on a aussi besoin d'argent. C'est pour ça qu'on avait fait la première, le passage du premier film, qui nous avait rapporté une petite somme, mais qui nous a surtout rapporté des gens sensibilisés qui maintenant versent régulièrement au collectif par le biais d'une association qui peut recevoir l'argent, qui est tout à fait habilitée. On a donc des donateurs qui s'engagent pour 5 euros, 10 euros, 30 euros, plus s'ils veulent, mais mensuellement, de manière, nous, à savoir que pendant un an, on pourra assurer le paiement d'un loyer. Sinon, on ne sait pas où on va.
Oui, tu veux ajouter quelque chose,
mais... Alors, je veux indiquer où on nous trouve, si vous voulez être des nôtres et des donateurs, même pour des renseignements. Alors, on peut adresser... Alors, pourquoi à jamais sans toi? Parce que notre garant, parce qu'ils sont reconnus pour recevoir l'argent, c'est une association qui fait partie, j'aurais dû la nommer, des autres que j'ai nommées avec le collectif. Jamais sans toi travaille à peu près comme notre collectif de Villefranche, mais il se situe en Aveyron du côté de Valadie, par là.
Mm-hmm. Oui.
Donc, tout le courrier doit être envoyé au collectif migrant 46 rue Alibert à Villefranche. 46 rue Alibert et bien mettre collectif migrant parce que l'adresse est la boîte aux lettres et la boîte aux lettres du Secours Populaire. Le Secours Populaire fait partie du réseau mais n'est pas le réseau. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, si. Mais en élargissant un petit peu... quels sont les objectifs, les solutions que vous préconisez? Est-ce que vous avez un peu des axes d'action?
Alors oui, je prendrais... le mieux, c'est de prendre... Je prends un cas concret, mais enfin général. Une famille avec deux enfants qui étant venant de l'Europe centrale... conditions terribles qui les ont obligés à fuir, bien que le pays ne soit pas en guerre. C'est là où il ne faut pas mélanger les pays en guerre et les pays qui ne sont pas en guerre. Cette famille, depuis 2 ans, avec 2 petits-enfants, était renvoyée de Millau à Rodez, de Rodez à Villefranche, et on recommençait par les logements du 115, oui. C'est-à-dire pour les personnes sans toit. Bon, notre réseau, le collectif a essayé de pouvoir les laisser, les tenir sur Villefranche dans un premier temps, dans les environs de Villefranche dans un deuxième temps, de manière à ce qu'ils puissent avoir régulièrement des cours de français, à ce que les enfants puissent être régulièrement scolarisés. Donc, il a fallu trouver, payer un loyer. On cherche aussi des personnes qui peuvent mettre à notre disposition appartements ou logements ou maisons, avec soit sans loyer, soit avec des loyers très faibles. C'est ce qui a été le cas.
Je voudrais peut-être dire dans ce que tu dis, le logement, donner un toit, c'est important. Mais ce qui est encore peut-être plus important, c'est de créer une équipe autour pour les aider. Oui. Parce que... on ne peut pas laisser une famille comme ça. Il faut absolument qu'elle soit entourée pour apprendre le français, pour la conduire, pour aller avec elle à la préfecture, pour plein de choses, pour plein de détails. Oui. Et ça, je crois que c'est prioritaire. Bon, le logement est important, mais il faut vraiment que l'équipe soit autour.
Et même, je dirais, pour l'amitié. On a été reçus à quelques-uns, c'était avec des personnes du Secours Populaire. On a été reçus dans une famille qui nous avait préparé plein de gâteau et qui nous a dit là où on était avant, on connaissait personne. Maintenant, on vous connaît et on est bien.
Mmh. Voilà. Je voudrais revenir.
Excusez-moi, peut-être préciser qu'il y a une réunion mensuelle qui est le lundi soir, obligatoirement le lundi soir, mais ça peut être le premier ou le deuxième lundi du mois suivant les.
Pour le réseau.
Pour le réseau.
Pour le réseau. Pour le collectif, à la maison des sociétés.
Voilà. D'accord. Oui. Je voudrais revenir. Qu'est-ce qui fait bouger les chrétiens pour s'occuper des migrants? Parce que, bon, prier ne suffit pas. La Bible nous dit, où est ton frère? Donc, dans l'Évangile, l'homme en détresse, c'est le Christ. Et la Bible, elle est née de l'exil. Je pense... à l'Exode, les Hébreux qui étaient, enfin c'est contesté un peu par les historiens, ils ne devaient pas être très nombreux, mais enfin il y a les Hyksos, qui étaient en esclavage en Égypte et qui ont été vers la terre promise. Puis il y a eu en 597, ils ont été déportés à Babylone à la suite de Nabucodonosor qui a détruit le temple, détruit Jérusalem, etc. Si bien que les chrétiens disent l'aide à l'étranger, c'est constitutif en quelque sorte de la Bible. Donc ça me paraît très très important par rapport à certaines idéologies qui disent on n'a pas les moyens, on peut pas les accueillir, envoyons-les chez eux. Le pape d'ailleurs carrément lève son armée, il dit que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d'Europe accueille une famille. Donc là, on est dans le tréfonds de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Je ne sais pas ce que vous en pensez là, Thérèse, toi qui es religieuse.
Moi, je pense que effectivement, c'est vraiment central pour un catholique. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai été très frappée par la réaction d'une de nos celles qui sont avec nous en équipe, qui m'a dit, il y a une phrase qui me touche beaucoup dans la Bible, c'est justement celle-ci. Quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je t'envoie. Ça l'interrogeait beaucoup. Voilà. Et puis, bon, moi, il y a une phrase qui m'intéresse, qui m'interroge aussi beaucoup. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Voilà. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi, actuellement, ce qui nous bouscule, c'est François. Le pape François nous bouscule, nous donne l'exemple. Il nous demande d'être prophète et d'aller aux périphéries. Et alors, il dit comme ça. Je préfère une église accidentée, blessée, pour être sortie sur les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort. Accueillir les migrants nous met sur ce chemin. Voilà, et il nous invite à changer notre discours et notre regard. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui bougent à cause du pape François.
Oui, je voudrais dire, enfin, c'est ce que je ressens. On découvre, nous, chrétiens, qu'il y a des non-chrétiens qui nous entraînent très loin dans l'accueil des autres, qui nous entraînent très loin là où des fois on n'ose pas aller, et c'est là où on découvre que pour nous, avec notre regard, Dieu souffle là où il veut.
Mais tout à fait.
Et partout.
Avant de, oui, Maïté. Oui.
Et puis il y a aussi la déclaration des droits de l'homme, tout simplement.
Absolument.
Avec la liberté pour tous de circulation. Hein. Actuellement, il n'y a que les capitaux, la marchandise qui peut circuler. Et les gens des pays riches, et les trois quarts de l'humanité ne peut plus bouger de chez elle ou aller dans le pays limitrophe tout au plus. C'est une violence inouïe faite aux hommes. Il y a aussi la non-assistance à personne en danger. C'est impressionnant que la Méditerranée soit devenue le plus grand cimetière. Enfin, la Méditerranée n'a jamais... Comme il y a de morts en Méditerranée, j'ai les chiffres quelque part, mais...
Plus de 2000 chaque année.
Oui. En 15 ans, c'est des milliers
de
morts.
C'est des milliers de morts.
C'est vraiment de la non-assistance à personne en danger. Enfin, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être...
Et on va voir justement où on en est aujourd'hui. Mais avant, on va écouter les crayons de couleur.
Cara corizar de Susa e Zala 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 Fatare Fatara Fatara Fataran Tumbu Fatare Fatara Fatara Fataran Tumbu
Fatare Fatara Fatara Fataran Tumbu zazek, tsy azoko fenina tantaraiky fa tsara ny marina tsy azo ajanona, ratsy mampiasina mody fana, fa tsy misy tsara tolay mpamonjy, fa tsy misy tsara tolay mpamonjy, fa ny ankoatr'izay de firesaka, topolo lavako mitresaka, tsy nazaka marina fa nangina, ny endriky ivelany nasondrina, fa tsara ny tompoka kalazao, asandrato feo ira vaovao e!
Tsara ny tompoka kalazao, asandrato feo ira vaovao e!
Alors, où en est-on sur les migrants? Moi, j'ai vu à la fois dans l'espace et dans le temps des variations. Dans le temps, d'abord, il y a eu des images terribles, un camion en Hongrie avec 70 corps asphyxiés, le cadavre d'un enfant de 3 ans qui a fait réagir la planète entière, des barbelés aux frontières pour arrêter les migrants. Il y a eu certes une euphorie, une liesse hospitalière avec les bénévoles allemands qui distribuent des couvertures, des nourritures, des mairies, des associations, des artistes, des bénévoles qui proposent de l'aide. En particulier, on n'en a pas parlé là, à Villefranche, là, où il en est le maire?
Le maire s'est rendu à Paris comme pas mal de maires, ils étaient 600, et sur Villefranche, il a programmé une rencontre publique, donc étaient présents trois maires, je crois. Et bon voilà,
oui, il nous a appelé et Couronne, je crois, pour le.
Il est d'accord pour accueillir, donc il a fait appel là dans la soirée. Il a fait appel à des volontaires, enfin à ceux qui pourraient éventuellement donner quelque chose, faire quelque chose, voilà.
Voilà. Mais alors après la liesse hospitalière, il y a eu une volte-face. Il y a certaines municipalités qui refusent, qui s'affolent. Certains pays aussi. Qui traînent des pieds, je pense à l'Angleterre, aux pays de l'Est européen, la Slovaquie, la Hongrie, en particulier d'Orban, la Pologne, etc. Donc, certains disent, mais dans ce flot de rescapés, là, il y aura sûrement des terroristes cachés, ou c'est qu'on va, vous êtes fous. Des ministres, par rapport à la Commission de l'Europe qui voulait des quotas, qui ont dit non. Donc, il y a eu une sorte de volte-face. Donc, où on en est, j'ai l'impression qu'il y a une peur là dans l'opinion publique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel.
Mais on peut comprendre qu'il y ait une peur. Alors, il faudrait voir ce que chacun pense autour de cette table pour les solutions que l'on peut préconiser. Et on va rentrer davantage encore dans le vif du sujet. Je pense que Maïté pourrait peut-être nous dire des choses intéressantes,
oui,
par rapport à ce qui...
C'est le problème de l'ouverture des frontières. Qu'est-ce que tu en penses, Maïté?
Alors, ce que je lis de plus en plus, ou ce que j'entends de plus en plus, jusqu'au numéro de l'Express du 30 septembre, qui consacre trois pages, qui ouvre ces trois pages à la directrice de recherche au CNRS, Catherine Vitole, qui plaide pour l'ouverture des frontières. Alors, ce n'est pas d'affreux gauchistes qui proposent ça. C'est il y a beaucoup de chercheurs et qui commencent à avoir l'oreille de certains politiques, les journées d'études aussi de l'UDI, du MoDem aussi, bon, sans parler des Verts ou de sur la libre circulation qui n'est pas une utopie. Alors des raisons.
Maïté Lulek, votre générosité n'est pas mise en doute, elle a été prouvée. Et pendant que vous cherchez vos papiers, je crois que on peut se poser quand même la question, est-ce que ça n'est pas effectivement utopique, est-ce que ça n'est pas dangereux d'ouvrir les frontières? On a quand même du chômage, alors je sais bien qu'il faut voir le problème d'une façon beaucoup plus élargie, mais tout de même, ouvrir les frontières, ça peut paraître quand même inconscient, ça peut paraître quelque chose qui n'est pas possible.
Pour me faire l'avocat du diable, avant de redonner la parole à Maïté, j'ai lu un économiste, Daniel Cohen, c'est pas rien, c'est l'école de Paris, qui dit,
actuellement, notre révolution électronique, informatique, détruit des emplois. À la différence de la première révolution avec la machine à vapeur, de la deuxième avec l'électricité. Donc, c'est très bien d'accueillir du monde, mais quand même, on a des chômeurs. Donc, vous voyez un peu le problème. Puis, il y a le climat, les réfugiés climatiques qui nous attendent. Donc, on est dans une situation dramatique, parce qu'on ne peut pas, au nom des droits de l'homme, on ne peut pas repousser les gens, les envoyer à la mort, mais est-ce que le mouvement ne va pas encore s'agrandir? Alors, Maïté.
Oui, ce qui est mis en avant, en premier, c'est que de toute façon, quand des migrants, quand c'est pour sauver leur vie, ils viendront de toute façon. Alors, ils chercheront d'autres voies, par mer ou par terre, ce qui entraînera encore plus de drames, mais de toute façon, ils fuiront. Donc ça, c'est la première réflexion. Donc, plus on ferme les frontières, plus on crée le trafic, plus on fait monter le prix pour arriver à se faufiler, mais de toute façon, ils passeront, qu'on mette des murs ou pas. Voilà, les gens migrent pour sauver leur vie, et pas parce qu'une frontière est poreuse. Et ça, c'est vrai aussi dans l'histoire, on ne peut pas reprendre. Oui. Et l'espace Schengen, en 85, il n'a pas entraîné d'exode massif de l'Est vers l'Ouest, du Sud vers le Nord. Ça, c'est les arguments. Et ensuite, pour les migrants économiques, au contraire, plus on ouvre les frontières, plus on circule, et plus il y a des allers-retours. Et c'est vrai, par exemple, par rapport au Maghreb, maintenant qu'on instaure les visas, quand il y a, par exemple, la Pologne et la France, il y a des allers-retours entre la Pologne et la France. Nous, dans la famille même, on a un cousin polonais qui travaille à Paris et qui revient dans sa famille et qui fait des allers-retours. Voilà. Ensuite, bon, c'est la question de l'emploi. Il faut faire peut-être 10 émissions de plus là-dessus. Mais la question de l'emploi, c'est pas la question des migrants. C'est toute une autre question économique et de choix économique qui fait que l'emploi est rare, que c'est plus ou moins volontairement rare. Et les migrants, qu'est-ce qu'on voit? Nous, ce qu'on connaît et qui travaille, les migrants, eh ben, ils font du service à la personne, ils font des travaux que même les Français ici qui sont un peu en galère ne prennent pas pour des tas de raisons parce qu'ils ne peuvent pas, ou des métiers très dangereux dans le bâtiment, enfin ils font des boulots, ou alors des métiers hyper qualifiés, que ce soit il y a les deux bouts.
C'est important ce que vous dites.
Voilà, ça c'est toutes les études montrent que l'immigration n'a pas l'OCDE, la Banque mondiale, j'en avais relevé d'autres, montrent que l'immigration n'a pas d'impact sur l'emploi, et c'est d'autres problèmes, l'emploi. D'accord. Et comme le délitement de nos sociétés, c'est d'autres problèmes. C'est
mais pas là, la solution ne serait-elle pas aussi...
Alors, juste dire que quand même, effectivement, à l'heure actuelle, on est dans une situation inédite. Il n'y a jamais eu autant de migration depuis la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'ils n'arrivent pas ici. 24 000 qu'on veut accueillir, ça correspond à ce qu'a été accueilli les Espagnols, qui ont été accueillis à Toulouse... moins qu'à Toulouse en 36.
24 000 en deux ans.
À Toulouse, à une année, ils ont accueilli 25 000 Espagnols. Bon, il faut toute proportion garder quant à ce qu'on appelle l'invasion.
Et en Allemagne, ils en accueillent 20 000 par jour.
Voilà.
Actuellement. Et ils parlent de 800 000. Le pays des droits de l'homme, c'est l'Allemagne maintenant.
Alors là, tout à fait.
Non, mais il est vrai que l'Allemagne a des besoins.
De toute façon, moi j'ai compris que ils préfèrent les gens être même en prison en France plutôt que qu'être libres dans leur pays.
C'est
la guerre, ou c'est la faim, ou c'est la misère.
Je crois que c'est un problème compliqué. Il faut faire preuve de bonne volonté et s'entourer de gens compétents qui disent des choses comme vous venez de l'exprimer, Maïté, parce que si on ne veut pas ouvrir son cœur et son intelligence à ce problème, on le résoudra pas par des refus.
Oui. Alors moi je crois que au niveau des solutions, il faut d'abord, moi je crois, le co-développement, parce que si on veut pas qu'il y ait tant de monde en Europe, c'est dans les pays qu'il faut aider.
C'est ça.
Et aider massivement. Et actuellement, l'aide au développement, depuis plusieurs années, a baissé. Alors là, on est dans l'absurdité.
Voilà, c'est ça. Je crois que...
si on veut moins de migrants, il faut les aider sur place, pour qu'ils se développent sur place. Ça me paraît...
Une partie de la solution est là.
Une partie de la solution est là.
Absolument.
Après, il y a aussi, est-ce qu'il faut faire la guerre davantage à Daesh? Est-ce que la situation de la Libye, est-ce qu'il qu'il faut intervenir. Donc, on ne va pas s'engager là-dedans parce que c'est...
Les présidents là, des régions qui ont fait une déclaration institutionnelle disent agir à la source pour stopper définitivement l'avancée des extrémismes qui jettent les populations sur les routes. C'est une chose. Agir à nos frontières pour organiser dans la dignité cet exode et éviter que la Méditerranée continue d'engloutir des familles entières. Et agir sur nos territoires pour accueillir au mieux ces personnes déracinées.
Agir de la dignité, je crois qu'il faut le retenir.
Voilà, oui. Oui. Je crois que le temps passe, il nous faut terminer. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais je crois que tu avais préparé, Maïté, une prière là-dessus.
Est-ce qu'il n'y a peut-être pas le temps, je ne sais pas.
Si,
je ne l'avais pas préparé. C'est quelque chose que j'avais écrit dans l'émotion.
Oui. Ah, vas-y.
Je voulais lire. Bon, le 4 septembre 2015, Eylan Kurdi, petit Syrien de 3 ans, s'est échoué sur une plage de Turquie. Il s'est noyé avec son frère et sa mère, parti de Kobana, détruit par Daesh. Seul son père a survécu. La photo fait le tour du monde. Comme moi, des milliers de personnes ont dû pleurer devant cette photo. Mais d'autres milliers d'enfants, d'adultes gisent partout, dans les déserts, à nos frontières, et quand ils arrivent en Europe, ils sont brutalisés par nos polices, en Hongrie, à Calais, à Vintimille, etc. Honte à nous, à notre génération, à notre modèle de sous-développement moral. Heureusement, face à cette barbarie, des personnes de tout pays, de toute croyance, des humains, tout simplement, réagissent, s'unissent pour faire leur devoir d'humain. Je le mettais sous forme de prière, oui. Seigneur, aide-nous dans nos indignations, nos générosités, nos actions, à ne pas parler à la place de ces migrants, mais à savoir écouter leurs besoins, leurs vraies demandes, à agir avec eux et non pour eux, à nous laisser toucher par toutes les valeurs qu'ils nous offrent. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos portes, nos cœurs, nos esprits, notre intelligence. Que nos réponses soient non seulement des réponses individuelles et collectives généreuses face à l'urgence, mais aussi des analyses, des réflexions et des actes politiques qui contribuent à lutter contre les inégalités énormes qui sapent nos sociétés, notre monde. Que nous saisissions cette chance, ce défi d'être bousculés assez profondément pour débloquer notre société en panne, pour construire une société plus solidaire, plus sobre, ouverte et colorée.
Merci Maïté, je crois que c'est une très bonne conclusion.
Pauvre fille, si tu le peins en noir. garçon, que la couleur ne fait pas l'homme, que la couleur ne fait pas l'homme.